Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
L'anthropologie évolutionniste, Brice, cherche à comprendre l'influence que l'environnement et la culture exercent sur les sociétés. En quoi peut-elle nous aider à penser la vie politique contemporaine?
Prenez Robert Lynch. Il publie sur le site Qui est un article dont la traduction en français donnerait « Les proches, les tribus et le côté sombre de l'identité ». La stratégie de l'évolution, y écrit-il, était destinée à favoriser les membres de sa propre famille, la famille élargie, le clan. Elle nous vient de nos ancêtres primates et elle pousse les parents à défendre leur progéniture, mais elle conditionne aussi jusqu'à notre sens de la justice. Or, quelque chose a changé il y a environ 12 000 ans avec le néolithique lorsque les humains se sont mis à l'agriculture. Alors, les sociétés se sont élargies bien au-delà de la tribu et le sentiment de la justice a suivi cette évolution. Or, les différentes strates de l'évolution des sociétés humaines s'accumulent au lieu que la plus récente élimine les précédentes. Le biologiste évolutionniste Edward Osborne Wilson a écrit notamment « Nous avons créé une civilisation à la Star Wars avec des émotions qui datent de l'âge de pierre, des institutions médiévales et une technologie qui nous donne la puissance des dieux. » Fin de citation. Notre instinct nous pousse à nous regrouper en fonction de nos préférences et de nos goûts dans toutes sortes de domaines et nos sociétés sont fondées sur l'existence de myriades de tels regroupements. Mais cette tendance a une face sombre, à savoir le risque fréquent d'hostilité envers les non-membres du groupe. C'est l'une des sources de la folie génocidaire. La tâche de nos démocraties libérales, poursuit Robert Lynch, est de trouver le moyen de maîtriser ce côté sombre tout en récoltant les bénéfices que leur procurent les formes de coopération étendues qu'elles ont mises en œuvre. Ainsi, les groupements basés sur l'adhésion volontaire et ceux qui acceptent les appartenances multiples tendent à générer de la coopération, non seulement entre leurs propres membres, mais aussi en tant que membres de communautés plus larges. À rebours, les groupes qui se constituent autour d'identités fixes, inaltérables et non redondantes avec d'autres appartenances, cultivent la division, voire la haine des autres. Ils renouent avec notre vieille tendance au tribalisme. Le capital social d'une société dépend de la capacité de ses membres à partager des valeurs et des normes communes, ainsi que du niveau de compréhension et de confiance mutuelle existante entre eux. Comme on sait, par de précises études, ce capital social est très élevé dans les pays scandinaves. Leurs citoyens se font mutuellement confiance et ils coopèrent entre eux. Mais les États-Unis, eux, sont placés au 142e rang entre la Guinée-Bissau et le Sud-Soudan.
Et Brice, les psychologues distinguent entre le capital social affectif, notre héritage des tribus de chasseurs-cueilleurs, et le capital social d'acquaintance.
Le premier n'est pas inutile aux sociétés modernes. C'est celui dont on encourage le développement dans l'armée. Le sentiment de solidarité à la vie et à la mort qui soude les membres d'un groupe de combat, par exemple. Mais le second, le capital social d'acquaintance, est le plus précieux aux États modernes parce qu'il limite nos pulsions égoïstes sectaire. On estime généralement que la politique aux États-Unis repose de plus en plus sur la compétition pour le pouvoir entre groupes ethniques. C'est du moins ce qui se dit du côté démocrate où l'on cherche à mobiliser et à additionner les électeurs des minorités en vue de former une majorité électorale. Mais les dirigeants de ce parti devraient se souvenir de la mise en garde adressée autrefois par Ted Kennedy, l'un de leurs dirigeants. Il disait, Ted Kennedy, il y a une différence entre être un parti qui se soucie des femmes et être le parti des femmes. De même, nous pouvons et devons être un parti qui se soucie des minorités, sans devenir le parti des minorités, car nous sommes d'abord des citoyens. Et il avait raison. 18% des hommes noirs ont voté il y a quelques semaines pour Donald Trump. Et le président sortant a emporté certains États comme la Floride grâce au vote latino que les démocrates tenaient pour acquis. Il ne faut pas réactiver la partie âge de pierre de notre cerveau en racontant que ce qui constitue notre identité et notre culture dépend de manière automatique de certaines caractéristiques ethniques. Surtout lorsqu'on prétend en outre que ces groupes identitaires sont engagés dans une lutte pour le pouvoir. Certains vont à présent jusqu'à prétendre que défendre les droits de l'individu constituerait une attaque contre le groupe et une manière de contribuer à son oppression. Le problème des États-Unis, c'est que l'appartenance politique elle-même a tourné au tribalisme. Elle détermine l'identité des gens et rend prévisible leur réaction à toutes sortes de stimuli. Du coup, on en vient à considérer tout ce qui favorise le groupe d'appartenance comme juste, au détriment de l'intérêt collectif qui est celui de la nation et qui relève, lui, de la coopération étendue. Or, la polarisation politique a atteint aux États-Unis un niveau sans précédent depuis la guerre de sécession, une situation explosive qu'il reviendra au tandem Biden-Harris d'apaiser. Dure mission.
Difficile mission, effectivement. Brice Couturier, merci pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et l'application Radio France.